Alain Winston, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Afi Dagoun, qui publie « Premières heures au paradis », un roman chez De Noël. J'avais besoin de ne faire qu'un avec le passé, qu'ensemble, mon ombre et moi, nous puissions être unis à nouveau. Il me fallait respirer près des vagues, les entendre, n'entendre qu'elles, retrouver les disparus de ma vie. On ne peut inventer sa propre route sans se rapprocher des fantômes. Vous êtes né à Saint-Étienne en 1973, Afi Dagoun. Et à Saint-Étienne, vous êtes resté fidèle jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, vous êtes monté à Lyon.
Oui, voilà.
Avec des ambitions terribles.
Ben, j'avais envie d'une ville plus grande, d'une liberté surtout, d'une indépendance que m'offrait Lyon, qui est à 50 km de Saint-Étienne. Donc c'était une première étape.
Et faire des études de lettres?
Oui, de lettres modernes. Et tout d'abord, ça a été une année de psychologie. Et très vite, je me suis aperçu que j'étais en train de commencer un premier roman qui est devenu Les Avenirs. Et j'avais vraiment le nez seulement dans les livres de littérature. Donc, je me suis inscrit en lettres modernes.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un premier roman ?
Ben, ça a commencé au collège, en fait. J'étais déjà très lié à l'écriture de lettres. D'un journal intime et très vite c'est devenu une évidence avec cette nouvelle vie de commencer un roman puisque j'avais déjà l'ambition de devenir écrivain et ce texte m'a accompagné toutes mes années d'études jusqu'à faire aussi des années d'histoire de l'art pour compléter cette formation culturelle mais avec l'ambition en arrière-plan d'écrire et de continuer ce manuscrit.
Mais ce sont des livres qui vous ont donné cette ambition de devenir un écrivain ?
On va dire que c'est mon rapport au langage, le rapport à la solitude. J'ai toujours été un enfant très, très réservé, très en retrait. J'avais déjà cet amour de la chambre. Et on peut dire que ce besoin d'écrire, d'être seul entre quatre murs, était inné en moi et quelque part c'était déjà une prévision de ce que j'allais devenir donc c'est plutôt des écrivains et en même temps une aptitude personnelle et instinctive à cette position d'écrivain.
Aujourd'hui encore vous restez enfermé dans vos quatre murs?
Ah oui, je suis très casanier, je sors l'après-midi mais en général le matin jusqu'à 15-16 heures, je suis toujours à la maison.
Alors, le premier livre que vous avez publié, c'est ce roman que vous avez intitulé « Les Avenirs », parce qu'il n'y en a pas qu'un.
Hein.
Et vous l'avez publié chez Farago.
Oui.
Il a été très remarqué, puisque vous avez obtenu le prix Fénéon pour ce livre. Et c'était l'histoire d'un homme entré dans une clinique psychiatrique en novembre 1942, à 17 ans. Pour en sortir beaucoup plus tard, en septembre 2001, sans avoir rien vu, donc, de la seconde moitié du XXe siècle.
C'est un livre sur l'absence. C'est un livre qui prend le contre-pied de la seconde moitié du XXe siècle, qui est une période où l'image, où tout ce que l'on l'on vit aujourd'hui était en train de poindre, de naître, ce monde du virtuel. Et j'avais envie de créer un personnage qui soit vraiment à l'opposé de ce qu'on attend d'un premier roman et en même temps de ce qu'on attend d'un roman d'un jeune auteur. J'avais cette nécessité de montrer la maturité que mes 10 années de vagabondage, d'études et d'écriture m'ont apporté. Donc il fallait l'incarner par ce personnage de Pierre Argan qui est dans le silence, qui est dans le retrait. Et en même temps en faire un livre sur la mémoire.
Lui aussi, il est dans ses murs.
Oui. C'est justement ce qui m'a intéressé dans ce personnage de Pierre Argan, c'est de créer un personnage qui soit un peu mon reflet, mais poussé à l'extrême dans la disparition.
Ce qui va ramener votre personnage au réel, c'est la mort. Une mort violente, un suicide. Le suicide d'un autre pensionnaire de cette clinique qui rêvait d'être peintre, de devenir peintre.
Oui, c'est un pensionnaire qui a tenu mon personnage en vie intérieurement, puisqu'il formait avec ses mains une peinture imaginaire dans l'air. Et Pierre Argan passe sa vie à suivre cette main dans son autisme, dans sa prostration. Et le roman commence à la fin, puisque j'ai inversé la narration. Il commence par la mort du peintre, ce qui ébranle mon personnage et crée ce déclic de retour et de réveil, d'éveil à la vie.
C'est pas toujours facile d'écrire un deuxième roman. Vous l'avez fait très vite, vous.
Oui, puisque en fait j'avais vécu 9 mois à Venise. D'où ce thème de Venise dans Quelle nuit sommes-nous? Et ce manuscrit, puisque j'ai un rapport de. Par rapport à l'écriture, j'aime la nuit d'un texte. J'aime quand un texte repose, quand il est oublié. Et Quelle nuit sommes-nous? C'est un texte, d'où ce titre, qui a grandi dans la nuit. C'est un texte qui est venu lors de ce voyage à Venise, où j'étais parti pour continuer les avenirs. Et donc, après avoir publié Les Avenirs, je me suis retrouvé en position de force, puisque j'avais déjà un manuscrit que j'avais travaillé.
Mais comme le premier livre, le deuxième est l'histoire d'une nouvelle naissance, d'une certaine manière.
Oui, puisque Samuel Tristan, le protagoniste, fait une fugue à 15 ans et par cette fuite va vers lui-même. Tout commence au Maroc et en passant par le Maghreb, le Moyen-Orient, jusqu'à Jérusalem, avant cela Beyrouth, jusqu'aux portes d'Aden, un peu sur les traces d'un Rimbaud contemporain, et tout finit à Venise, d'une façon qui peut être lue de plusieurs manières. C'est vraiment un éveil à la vie, un éveil au monde, un éveil au langage, aux langues. J'ai voulu que mon personnage soit, encore une fois, poussé à l'extrême ce que j'ai pu vivre en 3 jours avec une fugue que j'ai fait moi-même à 15 ans, avec cet épisode qui est complètement vécu de vivre une nuit entière sur un arbre, au sommet d'un arbre, qui est une expérience initiatique quelque part. Et Samuel Tristan est un peu ce double idéaliste et rêveur que je peux être.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller vous perdre dans une ville comme Venise?
J'ai vraiment reçu un appel.
Le temps d'une naissance.
Exactement, c'est le temps d'une naissance, puisque ces 9 mois ont été étranges pour moi, puisque j'ai gardé une île avec une jeune artiste qui se consacrait à la sculpture. Et j'ai pas pu tenir sur cette île. J'avais besoin du bruit de la ville. Même si Venise est une ville. Autre, une ville avec ses bruits de pas, de chariots, de vaporetto, c'est des bruits qui me manquaient. Donc j'ai demandé à la personne qui partageait ce travail avec moi de garder une île derrière la Giudecca, s'il y avait un moyen que je puisse vivre dans Venise et trouver quelqu'un pour m'emplacer, chose que j'ai pu faire dans son atelier dans le quartier de l'Arsenal. Du coup, j'ai pu travailler Les Avenirs. Et en même temps, ce texte qui est venu se greffer, qui allait devenir Quelle nuit sommes-nous ?
Et dans l'un et l'autre texte, L'avenir d'un personnage dépend d'une rencontre. Dans le premier, c'était ce peintre, ce pensionnaire qui rêvait d'être peintre et qui a fini par se suicider. Et dans le deuxième, c'est une femme mystérieuse.
Oui, c'est une femme, Emeline, qui en fait un personnage qui n'attire pas le désir chez Samuel, mais qui est un peu son double. C'est quelque part ce qui manque à Samuel Tristan, c'est le fait de faire les choses, d'accomplir quelque chose. Samuel Tristan est un personnage qui lit, qui ne voyage qu'avec ses livres. Et il a un manque énorme, c'est le fait de ne pas pouvoir écrire. Il a une espèce de stérilité par rapport à l'écriture. Et Emeline est complètement l'opposé de Samuel, puisqu'elle se consacre à la sculpture. Elle est complètement enfermée dans son art. Et c'est une chose qui. C'est pour cela que je dis que c'est une fin qui peut être lue de plusieurs façons, puisque au terme de ces 15 années de voyage, Samuel arrive face à un personnage qui lui montre une certaine voie, en fait. Et cette voie-là, il va la prendre symboliquement. Ses livres vont couler dans la mer, et quelque part, je montre là. Une chose que j'ai toujours appréciée chez un auteur comme Artaud, c'est que pour vraiment naître, il faut mourir et renaître à soi-même.
Vous avez remarqué que les noms des trois personnages, des trois romans que vous avez publiés jusqu'à présent, se terminent par la même sonorité, en.
Oui. J'ai jamais voulu vraiment, d'une façon arbitraire, faire ce petit clin d'œil. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il s'impose à moi. C'est une chose que je ne comprends pas encore.
Alors, jamais 203 à Fidagoun, puisque ce troisième roman que vous publiez, cette fois-ci chez De Noël, Premières heures au paradis, est une fois de plus l'histoire d'une renaissance.
Oui, et qui commence par une fuite, encore une fois. Une fuite et qui reprend aussi les thèmes qui me travaillent. En littérature, c'est donc des thèmes liés à l'absence, des thèmes liés à la filiation. Et là, d'autant plus que mon personnage arrive à une certaine maturité qui est un peu une suite de Quelle nuit sommes-nous, c'est-à-dire que mon personnage arrive à la trentaine et la renaissance arrive, mais d'une façon un peu nébuleuse. Là, dans Premières heures au paradis, la renaissance est concrète, c'est-à-dire que le monde se matérialise, un enfant va venir, une position géographique se tient, alors que j'ai personnellement toujours été un peu déterritorialisé, avec ses racines multiples, et mon personnage, Théophile Canan, se voit là, en fait, comme un point crucial où il doit choisir entre cette concrétisation des choses sociales, amoureuses, et poursuivre une certaine route pour aller au bout du chemin. Et pour cela, il doit retourner sur ses traces et sur les traces de ses pères.
Alors, ce personnage, Théophile Canan, dès la première ligne du livre, il prétend n'avoir jamais été un enfant. Et ce livre, vous l'avez dédié à votre père. Or, ce personnage prétend que ce qui a été son enfance se résume à de grands silences entre son père et lui. Il ne se souvient pas d'un seul jour heureux partagé avec son père.
Oui, ce sont des choses très, très fortes. Il y a une certaine violence dans mes textes et j'ai voulu montrer par ces quelques phrases toute la violence non dite, toute la violence qui se cache derrière le non-langage, derrière le regard, l'attente d'un père, même si on peut dire que Théophile a eu une enfance, pas, on va pas dire normale, mais une enfance, une certaine enfance. Son enfance lui a échappé. Les traces lui ont échappé. Ce qui reste d'une enfance, ce sont des souvenirs, ce sont des amis, des moments avec ses parents. Or, mon personnage est quelque part orphelin. Son père est là, mais n'est pas là, est toujours en vadrouille.
Et sa mère n'est plus là, parce qu'il y a cet événement tout de même, qui est la mort de la mère, qui a pour le moins brouillé les pistes de cette enfance.
Oui, c'est une mère fantomatique, une mère dont il reste simplement une odeur, puisque Théophile, nouveau-né, n'a senti sa mère que durant 7 jours. 7 jours où la seule chose qui ait pu rester, c'est une odeur. Et j'ai voulu, par la disparition de la mère, vraiment axer mon texte sur le questionnement de la paternité. Et la mère, qui a toujours été très importante dans mes deux précédents textes, surtout dans Les Avenirs, est ici effacée. Et cet effacement, je le travaille comme un personnage. Pour moi, la mère est très présente dans le texte.
Elle est comme une étoile.
Exactement.
Et le livre va être l'histoire de l'enfant mort en lui et qu'il va tenter de ressusciter. Et pour ressusciter cet enfant, une seule solution, celle que vous disiez tout à l'heure, qui a été celle que vous avez choisie pour vous-même dans votre enfance, la fuite.
Oui, puisque là, la fuite est une fuite qui a ses raisons d'être. Souvent je remarque que dans Les Avenirs, Pierre Argan ne choisit pas sa fuite, puisque c'est un drame, la déportation de Margot, jeune peintre juif qui lui manquera terriblement toute sa vie et qui sera le point final à une certaine vie. C'est une fuite subie. Dans quelle nuit sommes-nous ? C'est une fuite d'adolescent. C'est-à-dire que c'est une fuite pour vivre. Comme je le dis dans le texte, dans quelle nuit sommes-nous, le suicide trouve son contraire dans la fugue. La fugue est vraiment vue dans ce texte comme le contraire du suicide. Dans Premières heures au paradis, la fuite est une chose... c'est ma première fuite d'adulte dans ce texte.
Oui, parce qu'il doit quitter sa femme, qu'il aime éperdument, depuis 5 ans, et qui est enceinte de lui.
Donc c'est lui-même qu'il fuit, en fait. Il fuit le père qu'il a peur de devenir, il fuit le grand-père qu'il a eu, qu'il n'a pas très bien connu, et c'est un peu comme le fait de se retrouver mère et de posséder un être en soi. Théophile n'a pas envie de voir poindre, grandir en lui le père, et cette peur-là l'amène à partir, en fait.
Ce qu'il fuit, c'est aussi un écart entre sa femme et lui. Elle est romancière, elle a publié 5 livres déjà, alors que lui, ce n'est qu'un petit acteur de publicité. Et être acteur, il pense que c'est être personne.
C'est le dilemme du texte qui, pour la première fois, s'inscrit dans un aspect contemporain. Mon personnage ne se sent pas à la hauteur de la femme qu'il aime, et cette ambition qui est calme en elle, qui est sereine, est une ambition qu'il ne sent pas en lui. Donc, le fait de devoir prouver des choses, se prouver des choses et prouver des choses à l'être aimé me montre quelque part par rapport à ce texte que l'amour ne peut pas tout. Et j'ai voulu, par ce livre, montrer que l'amour ne pouvait pas tout.
On est sûr que l'amour ne pouvait pas tout?
Dans ma vie personnelle, j'ai la conviction que l'amour peut beaucoup de choses, mais j'ai voulu, en littérature, apporter une ombre, puisque c'est en fait par rapport aux personnes que je vois autour de moi, je me rends compte que quelque part je suis un peu privilégié dans ma relation amoureuse, et j'ai l'impression que c'est vraiment une exception par rapport au pourcentage de réussite.
Si ce on qui se dire. Passe dans la littérature, ça doit être différent de ce qui se passe dans la vie.
Mais justement, c'est que c'est la même chose, mais d'une façon un peu exacerbée, puisque l'ombre qui arrive en littérature est une ombre que je crains dans ma propre vie, quelque part. Et j'ai voulu la faire exister dans un livre. J'ai voulu que Théophile me montre encore, comme Pierre Hagan m'a montré, comme Samuel m'a montré, une certaine vision, puisque la littérature est une recherche, pour que je puisse, quelque part, anticiper certaines peurs.
Vous écrivez des livres pour vous faire peur?
Un petit peu. Un petit peu. C'est pour ça que j'écris beaucoup la nuit, puisque je remarque par rapport à mes lectures que la littérature me tient en éveil. C'est quelque chose que je ne retrouve pas dans, ou je retrouve très peu dans le cinéma ou dans ma vie de tous les jours. Je trouve que la littérature est encore un de ces bastions qui tient vraiment un être en éveil.
La littérature éveille et l'amour endort.
Apaise plutôt.
Consistait la fuite de Théophile Canon à Fidagoune?
Au départ, il ne sait pas très bien pourquoi il claque la porte, il s'en va. Il a certaines visions qui le rattrapent, comme la vision de son grand-père mort, seul dans une cuisine, dans une petite maison en Corrèze. Événement qui, dans son présent, ne l'a pas marqué, puisqu'à la même période, son grand-père était vraiment quelqu'un de très lointain. Il rencontrait Lucille, la femme qu'il quitte au début du roman. Donc, quelque part, c'est une certaine réalité affective qui le rattrape, et le temps des prémices de cette fuite, les fantômes commencent à venir rôder autour de lui. Et dans cette période-là, une chose inattendue arrive qui va encore le dérouter.
21 jours après être parti. Et je suis sûr que ce chiffre, 21, n'est pas là par hasard. Vous aviez sûrement une idée derrière la tête.
Mais je pense que j'ai un côté un peu mystique qui me vient peut-être de mon arrière-grand-mère. Les chiffres sont très importants dans mes textes. Et 21, c'est lié à certaines choses, au soi-disant 21 grammes qu'on peut perdre au moment de sa mort, le 21 de pratiquement tous les appartements où mes parents ont vécu. Il y a beaucoup de rapprochements avec ce chiffre. Mmh.
Puis c'est 3 fois 7.
Aussi, c'est un chiffre triangulaire.
21 jours, donc, après être parti, il reçoit un coup de téléphone. C'est l'assistante de David Lynch. Le cinéaste l'a vu dans une pub à la télé et il décide d'en faire le personnage principal de son prochain film qui s'intitule précisément « Premières heures au paradis ».
Le destin peut frapper n'importe quand de façon négative ou positive et j'ai toujours été marqué par... Les interviews de comédiens qui racontent qu'ils ont été choisis dans le métro ou sur un catalogue, sur quelque chose de complètement anodin par rapport à leur travail. Et ce coup de fil de l'assistante de David Lynch n'est pas un hasard, puisque quand je décris rapidement la publicité dans laquelle Théophile... apparaît, c'est une publicité qui a une esthétique lynchienne, avec du rouge, du noir, des clairs-obscurs. Et le fait que Lynch, de passage à Paris, voit cette publicité, Lynch qui est un réalisateur qui travaille beaucoup avec les visions intérieures, avec ce qu'il ressent dans ses rêves, dans certains signes en concordance avec son travail, va tout de suite être non pas séduit ou marqué par ce visage, mais va ressentir une résonance par rapport au personnage qu'il travaille. Puisque c'est aussi un livre sur la création. Et la création, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que quelque part, un personnage en littérature ou au cinéma préexiste à l'intérieur du créateur. Ce personnage ne vient pas par hasard. Je n'invente pas un vieil homme assis sur un banc par hasard ou un jeune homme qui fait une fugue ou un jeune comédien qui a cette bonne étoile qui arrive enfin. Ce sont des choses qui habitent l'auteur. Peu importe si ce sont des choses vécues ou pas, parce qu'on a toujours cette question qui revient, avez-vous vécu ou non les événements que vous relatez? Et en fait, la question n'est pas là. Je pense que chaque auteur ou chaque réalisateur... comme là en l'occurrence David Lynch, est habité par ses propres fantômes qu'il ressuscite, qu'il incarne. Et là, Théophile est vraiment l'incarnation de son personnage.
Mmh. Comment va se passer la rencontre avec David Lynch?
C'est une rencontre cocasse. C'est une rencontre où, par le biais du personnage de David Lynch, il y a certains clins d'œil à son côté... pas maladroit, mais son côté enfantin, puisqu'il se rencontre dans un hôtel à Rio, et David Lynch, à un moment, se promène sur Copacabana jusqu'à Ipanema en tongs avec son peignoir de l'hôtel Sofitel. Il y a des petites choses comme ça qui sont un mélange de visions, de rêves, de choses que j'ai pu moi-même vivre lors d'un voyage au Brésil. Et cette rencontre-là se passe de façon naturelle, étrangement, puisque Théophile n'est pas du tout impressionné, et David Lynch n'est pas du tout quelqu'un qui use de sa position. C'est vraiment quelqu'un qui veut rencontrer Théophile, qui veut savoir quel homme il est.
Ils parlent beaucoup, donc, tous les deux.
Ils parlent beaucoup, mais ce sont des mots qui n'appartiennent qu'à eux. Ce sont des mots que je n'ai pas voulu réinventer, ou plutôt j'ai voulu qu'ils existent entre les lignes. Parce qu'il y a une chose que je n'aime pas du tout en littérature, c'est le côté artificiel, le côté poseur. Et je n'ai pas voulu prétendre inventer un Lynch. J'ai voulu en donner une silhouette, un côté légendaire quelque part.
Donc les deux hommes parlent. Et les deux hommes boivent, ils boivent beaucoup, autant qu'ils parlent, et c'est pas du lait à la noix de coco qu'ils boivent.
Non, c'est plutôt la boisson brésilienne, la caipirinha, mais l'excellente caipirinha qui est faite là-bas. Et c'est une boisson qui les accompagne dans une sorte de danse qui commence par un soir. Ensuite, il y a une nuit très importante. Et le fil conducteur, c'est cette boisson qui est à la fois légère, entraînante, festive. Dans quelle nuit sommes-nous ? C'était le rhum. Et là, j'ai voulu, quelque part, donner cette touche brésilienne par cette boisson, mais en même temps, ne pas tomber dans certains clichés et montrer des choses charnelles du Brésil, des choses qui sont de l'ordre du festif, mais en même temps, dans un mouvement naturel. Qui emmène David Lynch et Théophile dans une nuit étrange, mêlée par des visions lynchiennes, où à un moment Théophile se réveille, ne sait plus où il est, les êtres se mélangent, les formes se mêlent.
Oui, vous pouvez même dire que Théophile a des hallucinations.
Oui, il y a un aspect, c'est les petites choses, les petites touches lynchiennes que j'ai voulu mettre, puisque j'ai voulu donner une petite esthétique dans l'approche de cette rencontre, dans le fait que Théophile commence à s'abandonner, à quitter ce questionnement perpétuel qui le torture. Cette boisson, justement, la caipirinha, symbolise vraiment le laisser-aller qui manquait tant à Théophile.
Et Théophile ne va pas voir comme Hamlet le spectre de son père, il va voir le fantôme de sa mère.
Oui.
Tout de suite.
Là, c'est la vision de cette nuit-là, celle qui est l'un des points forts du texte, puisque cette mère a toujours été absente, a toujours été non pas un questionnement. Une obsession chez Théophile, puisque quelque part il était dans cette fuite-là aussi de ne pas vouloir comprendre, et son père l'aidait aussi à oublier, puisqu'il y avait ces non-dits entre eux. Et là, cette vision, cette extra-lucidité, au moment où il y a j'ai tout un tableau en tête de cette petite guinguette à Rio. Parmi les centaines de visages, il y a celui de sa mère. Et cette apparition-là pourrait très bien être dans un film de Lynch. C'est une chose qui, lorsque je travaille une scène, ce sont des choses que je n'invente pas quelque part. J'ai l'impression que c'est ce que je ressens par rapport à mes personnages. Mes personnages m'imposent certaines choses. Et à ce moment-là, la mère est venue.
Mais votre personnage, il fait aussi des cauchemars comme celui récurrent où son père s'arrachait les yeux. On peut penser que Édipe est passé par là.
Oui, oui, il y a toute une imagerie inconsciente qui est là. C'est certain, surtout que le regard est très important dans ce roman-là aussi, comme dans les avenirs. Le regard est vraiment la porte du monde, quoi, pour le personnage.
Et ce film, alors, il le tourne ? Ça raconte quoi ?
Le film, donc, on apprend le titre dans la troisième partie du roman, c'est « Premières heures au paradis ». C'est un film qui raconte l'histoire d'un ancien soldat qui est parti en Irak. Et en fait, Théophile joue ce soldat, Joseph Kelso. Et ce personnage, en fait, on le prend à son arrivée dans sa famille, au fin fond des États-Unis, dans la région où Lynch est né, d'ailleurs. Et il est complètement... il n'est pas fou, il n'est pas... comme on peut voir dans certains films par rapport à des anciens soldats du Vietnam. C'est un personnage qui est torturé par des visions, mais en même temps qui qui est un peu le miroir, le pendant de Pierre Argan, puisqu'il y a un rapport avec le... il y a un rapport à la peinture, il y a un rapport à l'œil, au regard, à cette volonté d'effacer le monde, de s'en abstraire, tout en continuant à être physiquement là. Et ce personnage de Joseph Kelso va transformer Théophile. Et c'est là que le travail du comédien et le fait de vivre avec une comédienne moi-même m'aide à comprendre comment un comédien travaille un personnage, mais comment un personnage travaille un comédien. Mmh. Et c'est là que c'est devenu intéressant pour moi, c'est que le personnage de Joseph Kelso va, tout comme la rencontre avec David Lynch, la rencontre entre Joseph Kelso et Théophile va être prépondérante à cette renaissance.
Après le tournage, Lynch se réfugie quelque temps en Mélanésie et il demande à Théophile de le rejoindre. Là, une lettre mystérieuse va arriver dans les mains de Théophile et cette lettre, on peut dire qu'elle contient les clés du paradis peut-être.
Oui, c'est le point d'orgue du roman. C'est en fait, comme il arrive souvent à Lynch pendant un tournage, il y a toujours des choses imprévues, des disparitions, des retournements de situation, puisque son esprit est complètement et sans arrêt en ébullition. Il a ce besoin de se retirer. Donc, dans cette période de retrait, où en même temps Théophile se sent déphasé, il en profite pour remettre sur pied son comédien et le remettre sur pied non pas d'une façon professionnelle et complètement pragmatique par rapport à son travail, mais le remettre sur pied d'une façon intimiste, c'est-à-dire qu'il essaye de voir ce qui ne va pas dans sa vie pour qu'il puisse continuer à travailler. Et David Lynch est un peu le gardien d'un temple caché, enfoui, qui est matérialisé par cette lettre. Lettre elle-même cachée dans un livre.
Le livre est en lui-même une lettre.
Oui.
Le vôtre.
C'est vraiment le clin d'œil à la littérature où tous les textes se répondent, où le texte, le cœur est un chasseur solitaire qui est à l'intérieur du texte. Répond aussi à mon livre, où le démon de Selby répond aussi au démon qui travaille Théophile. La littérature ne finit jamais, en fait.
Premières heures au paradis, le roman de Afi Dagoun est publié chez De Noël. Du jour au lendemain, Olivier Dupré, Manouchak Pachaï, Didier Pinault, Alain Winston, bonsoir.